L'évangile de Marc, chapitre 13, nous avons commencé une étude de ce passage la semaine passée. Donc je ne vais pas vous relire tout le passage, nous allons juste lire la partie qui nous concerne aujourd'hui. Et je ferai une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Donc nous lisons au verset 1 du chapitre 13 de l'évangile de Marc. Lorsque Jésus sortit du temple, et c'est la dernière fois qu'il sort du temple, après cela, il va à la croix, il ne reviendrait plus. Un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Il admire le temple. Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela, la destruction du temple, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» ou l'accomplissement de toutes ces choses, plus littéralement, nous découvrons, comme je vous l'avais montré la dernière fois, que en fait, Matthieu nous rapporte qu'il posait une question avec un peu plus de détails. Quand est-ce que le temple sera détruit et quand sera ta venue et la fin de l'âge? Donc, les Juifs pensaient que le temple allait durer jusqu'à la fin du monde et que si Jésus parle de la destruction du temple, il est en train de dire que le monde va prendre fin. Jésus doit donc les corriger et dissocier la destruction de Jérusalem de la fin du monde, et c'est ce qu'il va dire tout de suite, ce qu'il va faire tout de suite. Verset 5. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, c'est moi, et séduiront beaucoup de gens. » Nous sommes en train de parler de ce qui arrive, pas à la fin du monde, mais juste avant, les années avant l'an 70, où le temple est détruit. Car plusieurs viendront sous mon nom, ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ici, la fin de la période judaïque, l'Ancien Testament, le temple. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines, ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verge dans les synagogues. Ça ne concerne pas, c'est local, c'est juif. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations avant l'année 70. Quand, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, citation de prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée, ça ne nous concerne pas, c'est premier siècle, c'est en Judée, fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse, parce qu'on est au premier siècle en Palestine où les terrasses sont sur les toits, ne descendent pas et ne rentrent pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les chambres ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Parce que nous ne parlons pas de la fin du monde, mais nous parlons des armées romaines qui entourent Jérusalem et qui obligent les chrétiens de fuir la ville, malheureusement aux femmes enceintes, okay, c'est difficile de fuir, malheur à si c'est en hiver. Car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant et de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé, et il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Et là, je pense qu'il veut dire sauvé de ce malheur qui arrive, de ce désastre. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera. Donc avant la chute de Jérusalem, de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Il parle à ceux qui sont devant lui. Mais dans ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira. Et c'est un langage imagé, à ne pas prendre littéralement. C'est ce qu'on appelle le langage apocalyptique pour décrire la chute de royaumes ou d'empires. Mais en utilisant les corps célestes pour parler de ces choses. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, si ça arrivait vraiment, vous savez que... et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas du Fils de l'homme qui vient du ciel vers nous, comme à la fin du monde, mais c'est une citation de Daniel où le Fils de l'homme vient de la terre au Père sur les nuées pour recevoir le règne et la domination universelle. Donc, lors de son exaltation, sa résurrection, ainsi de suite. Alors, il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, pour ce jugement sur l'ancienne alliance et l'ancien peuple de Dieu. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et je vous ai bien dit que Jésus place cet événement dans la génération où il parle. Cette génération ne passera que toutes ces choses n'arrivent. Donc, tout ce que je viens de lire s'est passé dans le premier siècle et avant l'année 70. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais maintenant, disons, il veut montrer qu'il dit la vérité, mais ayant dit que le ciel et la terre passeront, ça c'est vraiment la fin du monde. Et maintenant, il va parler du fin du monde. Mais de ce qui est du jour et de l'heure, et littéralement de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où la terre et le ciel passeront, personne ne les connaît. Il vient de dire le jour de la destruction de Jérusalem, vous saurez par les signes. Mais maintenant, il dit cet autre jour, personne ne le sait, ni les anges, pas les anges dans le ciel, pas même le Fils. Le Père seul sait. Prenez garde, veillez, priez. Vous ne savez quand ce sera le moment. Et je vais m'arrêter là. Bien, aujourd'hui, nous allons tout simplement regarder les quelques signes que Jésus donne pour avertir les chrétiens en Judée quand il faut fuir Jérusalem pour ne pas être pris dans la destruction de Jérusalem. On va faire de l'histoire. Vous aimez de l'histoire? Je vais vous raconter des choses bouleversantes aujourd'hui. Vous n'allez pas vous en revenir, j'en suis sûr. Ce sont des choses vraies et je vais vous montrer que toute cette première partie ne parle pas de la fin du monde comme souvent les évangéliques le pensent, mais parle, comme Jésus dit, des choses qui devaient se passer dans cette génération-là. Et je vais appeler à la barre des témoins. Ils sont dans le parking. Non. En fait, ce sont d'une part les auteurs du Nouveau Testament et de l'autre part des historiens, donc non chrétiens et chrétiens. Je vais les présenter. Voilà Tacite. Tacite, c'est un historien romain, il n'est pas chrétien, il déteste les chrétiens, mais nous avons ses écrits. Il est né vers l'année 54, donc il est né avant la chute de Jérusalem. Il sait de quoi il parle, et nous avons tous ses écrits. Vous pouvez même les trouver sur Internet en français, traduit. Suétone est un autre historien, il est né vers l'année 70, mais il devient historien et il écrit au sujet de l'époque dont Jésus parle. Il déteste aussi les chrétiens, il les attaque dans ses écrits. Je le dis parce que je n'amène pas à la barre simplement des gens qui sont pour l'évangile. Flavius Joseph est un historien très fameux. C'est un juif, il n'est pas chrétien, il n'a rien à faire avec le christianisme, mais il est né vers l'année où Jésus est mort. Il a été capturé par les Romains quand ils sont venus prendre Jérusalem et il a écrit des histoires de toutes ces choses. Sénéque, Irénée de Lyon, un chrétien, Clément de Rome, qui quelque part il écrit entre 70 et 80. Donc nous allons voir ce qu'ils disent au sujet de tremblements de terre dans cette période, de faux Christ, de famine. Nous allons voir si on est en train de parler de cette période-là. Numéro 1, premier signe. L'apparition de faux Christ et de faux prophètes. Regardez les versets 5 et 6, vous l'avez sur la feuille. Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Ils séduiront beaucoup de gens. » Vous avez compris la prophétie de Jésus? Des faux Christ qui séduiront beaucoup. Plus loin dans Marc, les versets 21 à 23, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Eh bien, les historiens et le Nouveau Testament nous racontent que dans la période, les 40 ans entre le départ de Jésus et la chute de Jérusalem, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vous donne quelques exemples. Il faut savoir que la tentation des faux Christ était très forte pour les Juifs. Parce que, rappelez-vous qu'ils étaient dans l'attente à cette période, beaucoup, et ils voulaient, avec un peu de fanatisme patriotique, avoir un Messie roi qui allait leur délivrer du joug romain, n'est-ce pas? Et donc, en tout cas, l'apôtre Jean écrit dans sa première épître, entre l'année 60 et 65, donc 10 à 5 ans avant la chute de Jérusalem, il écrit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure, et il ne parle pas de la fin du monde, il parle de... Lui, il pense à Jésus, au discours sur le mont des Oliviers. Il pense de la dernière heure du judaïsme, de l'ancienne alliance, de cette période des millénaires où Israël était le peuple de Dieu. Il dit, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant, il dit, en 60, 65, plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Il dit, je vois le signe dont Jésus a parlé. Maintenant, antéchrist ne veut pas dire antichrist. Ça veut dire remplacement, celui qui prétend être Christ. Ok? Donc, de faux prophètes aussi, Jude 4, il s'est glissé parmi vous certaines âmes, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Jean, dans 2e Jean, plusieurs séducteurs, plusieurs, il dit, sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il doit dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. D'accord? La Bible nous témoigne que dans cette période, faux Christ, faux prophète. Mais ça devient plus intéressant dans un sens. Quand nous lisons par exemple des écrits des auteurs en dehors de la Bible, qui parlent par exemple d'un certain Dositos, le Samaritain. Alors je lis dans l'œuvre d'Origène, donc écrit quelque part vers 200-220. Et après les temps de Jésus, Dositos, le Samaritain, a voulu également convaincre les Samaritains qu'il était le Christ prédit par Moïse et semble avoir gagné certains à ses vues. Maintenant, Flavius Joseph, cet historien juif, a dit que la Palestine, pendant cette période, était remplie de faux Christ et d'imposteurs. Et donc, écoutez ce qu'il dit dans son œuvre Les Antiquités. La première année du gouvernement de Néron, en Judée, les affaires prenaient de jour en jour une tournure de plus en plus mauvaise, car le pays était de nouveau rempli de brigands et d'impostures qui trompaient le peuple. Chaque jour, Félix, le gouverneur, arrêtait beaucoup de ces derniers et les faisait périr, ainsi que des brigands. Quant aux imposteurs et aux trompeurs, ils conseillaient au peuple de les suivre au désert, car, disait-il, ils lui montreraient des miracles et des signes éclatants dus à la providence divine. Beaucoup les écoutèrent et furent châtiés de leur folie, car Félix les livra au supplice. À ce moment-là, vint à Jérusalem un Égyptien qui se disait prophète et qui conseilla à la populace de monter avec lui au mont qui appelait le mont des Oliviers, qui se trouve en face de la ville, à 5 stades de distance. Ça va? Je ne vous perds pas? Il répétait en effet aux gens qui voulaient leur montrer de là comment, sur son ordre, les remparts de Jérusalem s'écrouleraient. Et il promettait de leur frayer ainsi un passage. Voilà. C'est un exemple. Alors, il est probable que cet Égyptien dont il parle, Flavius, est aussi celui mentionné dans Actes chapitre 21, où nous lisons ceci. Un soldat romain parle à Paul devant la foule agitée et il dit à Paul, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Vous voyez comment les choses se recoupent? Ensuite, il y a Teudas. Flavius Joseph dit que 12 ans après la mort de Jésus, un homme nommé Teudas se lève et prétend être un sauveur. Écoutez bien ce que Flavius Joseph dit. Pendant que Fadius était procurateur de Judée, un magicien nommé Teudas persuada à une grande foule de gens de le suivre en emportant leurs biens jusqu'au Jourdain. Vous imaginez? Imaginez si ça arrivait en France. Nous sommes dans des temps vraiment exceptionnels. Une foule de gens qui emportent leurs biens jusqu'au Jourdain, ils prétendaient être prophètes et pouvoir à son commandement diviser les eaux du fleuve pour assurer à tous un passage facile. Se disant, ils séduisaient beaucoup de gens. Mais Fadius ne leur permit pas de s'abandonner à leur folie. Il envoya contre eux un escadron de cavalerie qui les surprit et tua beaucoup et en prit beaucoup vivants. Ensuite, il y avait Simon le magicien. Alors, vous savez, si vous avez lu Actes chapitre 8, que cet homme s'est levé qui disait être une sorte d'incarnation de Dieu. Et vous vous rappelez, il se fait baptiser, il trompe même les apôtres un peu au début, qu'ils soient convertis. Mais nous savons par l'histoire que le secte de Simon le magicien dure jusqu'au 3e siècle. Donc, Irénée de Lyon, qui écrit vers l'année 188, dit ceci. Il s'agit en effet de Simon de Samarie, ce magicien. Il vivait au temps de l'empereur Claude, qui, dit-on, alla jusqu'à l'honorer d'une statue pour sa magie. Donc l'empereur élève un statue à l'honneur de Simon. C'est ainsi qu'il fut glorifié par un grand nombre à l'égal de Dieu. C'était lui-même, enseignait-il, qui s'était manifesté parmi les Juifs comme fils, qui était descendu en Samarie comme père et qui était venu parmi les autres nations comme Esprit Saint. Voilà, le faux Christ, le faux prophète. Ok, nous voyons que cette prophétie de Jésus se réalise parfaitement et j'aurais pu vous donner d'autres exemples. de Tacite, de Flavius, etc. Nous allons passer au deuxième point. Regardez avec moi dans le deuxième point sur votre feuille, Marc 13, 7 à 8. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Guerre et bruit de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, Flavius dit ceci, je vais être ami avec lui, je vais l'appeler Flavius, donc cet historien juif. Il dit ceci dans ses Antiquités, « Toutes sortes de malheurs sont tombés sur nous par ces hommes, des guerres violentes nous sont survenues une après l'autre. » Guerre et bruit de guerre. En fait, vers l'année 40, il y a... Par exemple, on a commencé à entendre des rumeurs de guerre dans la Palestine. L'empereur qu'on appelle Gaius, nous l'appelons aussi Caligula, a voulu installer un statut de lui-même comme Dieu dans le temple de Jérusalem. Alors, on nous raconte, Tacite et Flavius, que probablement Gaius est devenu un peu fou au milieu de son règne. Il a tué, exilé ses parents, et pour se distraire pendant ses repas, il aimait voir des gens torturés. Il est devenu complètement dingue. À un moment donné, il se déclare Dieu. Et il fait construire des temples en son honneur partout dans l'Empire, en exigeant que les gens l'adorent et offrent des sacrifices devant ses statues. Et voilà, vers 40, il commande une invasion de la Judée pour obliger les Juifs de mettre sa statue dans le temple de Jérusalem. Et voilà ce que dit Flavius. Rien n'égala l'insolence avec laquelle l'empereur Gaius défia la fortune. Il voulut se faire passer pour un dieu et être salué de ce nom. Son impiété s'étendit jusqu'en Judée. En effet, il envoya Pétrone avec une armée à Jérusalem pour installer dans le temple des statues faites à son image. Il lui ordonna, si les Juifs ne consentaient pas à les recevoir, de mettre à mort les mutins et de réduire en esclavage tout le reste de la nation. Mais Dieu veilla à ce que de pareils ordres ne reçussent pas leur exécution. Pétrone partit d'Antioche, entra en Judée avec 3 légions et de nombreux contingents alliés de Syrie. Écoutez bien, il dit, « Parmi les Juifs, les uns révoquaient en doute les bruits de guerre, et ceux qui y croyaient ne percevaient aucun moyen de défense. Bientôt, la terreur se répandit dans toute la multitude, l'armée étant déjà là, arrivée à Ptolémaïs. » Donc, nous voyons qu'il y a des guerres et aussi, dit Flavius, des bruits de guerre, des rumeurs qui ne s'accomplissent pas. Écoutez encore Flavius, il dit ceci au sujet de cette période. À ce temps, il y eut 10 000 autres troubles dans la Judée qui étaient comme des tumultes parce qu'un grand nombre se sont mis dans une posture de guerre. Et à un moment donné, dans cette période de 40 ans avant la chute de Jérusalem, il y a presque une guerre civile en Judée, en Israël. Et donc il y a un général romain qui s'appelle Vespasien qui va venir s'attaquer à la ville, mais il décide de ne pas le faire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que les Juifs sont en train de se détruire eux-mêmes. Donc Flavius nous dit ceci. Il nous dit que Vespasien a dit que ses soldats doivent demeurer à l'écart des dangers en Israël, spectateurs lointains des luttes où leurs adversaires se déchirent de leurs propres mains et s'abandonnent au plus grand des maux, la guerre civile, plutôt que de combattre des hommes qui cherchent à mort et se disputent avec rage. Étreint pour la guerre civile, etc. Et donc il dit en gros, n'y allez pas et ils vont se tuer eux-mêmes. Voilà. Guerre et bruit de guerre. Maintenant, parlons de la situation dans l'Empire romain en dehors d'Israël. Est-ce que Jésus avait raison qu'ils allaient entendre parler de guerre, pas voir forcément, et de bruit de guerre? Oui, en l'année 36, des guerres dans le royaume de Partie, 36 et 37, les guerres d'Hérode Antipas contre le roi d'Arabie. Quand vous lisez les œuvres de Tacite, vous tombez sur des phrases comme ceci quand il parle de cette période. Les Suèves assiégés contre les Silures, guerre entre les Arméniens et les Ibères, problème en Germanie, l'Allemagne, révolte en Cilicie, nouveau trouble en Bretagne, là il parle de ce que nous appelons la Grande-Bretagne, et un peu partout dans le royaume il y a des soulèvements, des révoltes. En Alexandrie, et il faut que vous sachiez aussi, là je vais aller sur le prochain point, que dans différents endroits pendant cette période à un moment donné, les gens commencent à s'attaquer aux juifs de la diaspora. Par exemple, nous lisons dans Flavius Josèphe, en Alexandrie, un soulèvement contre les juifs conduit à un massacre de 50 000 juifs. Dans la ville de Damas, 10 000 juifs sont apparemment tués. Et 50 000 de plus de Juifs sont tués en Seleucie. Et dans une bataille entre les Juifs et les Syriens dans la ville de Césarée, 20 000 Juifs sont tués. C'est des choses qu'on lit dans les historiens séculiers de l'époque. Et si vous avez étudié l'Empire romain, peut-être vous savez que juste avant la chute de Jérusalem, on a ce qu'on appelle l'année des quatre empereurs. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que en 18 mois, il y a quatre empereurs romains qui viennent, prennent le trône et meurent. Parfois par suicide, parfois assassinés par le prochain, mais c'est des conflits, c'est un désastre. Ok, nous allons sur le prochain point, le point 3, si vous voulez, sur votre feuille. Marc nous rapporte que Jésus dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et ce ne sera que le commencement des douleurs. Quand nous lisons les historiens du premier siècle, nous apprenons qu'ils parlent de tremblements de terre entre à peu près l'année 30 et l'année 70, à Crète, Smyrne, Apamée, en Syrie, Milet, Chio, Samos, Laodicée, Hiérapole, Colosse, Compagnie, Rome, Judée et Pompéi. Peut-être vous savez l'histoire de Pompéi, cette ville qui a été recouverte par un tremblement de terre en 79, mais peu de gens savent qu'avant la destruction de Jérusalem, dans l'année 63, Pompéi a été grandement, partiellement détruit par un autre tremblement de terre. Selon Flavius Josèphe, pardon, selon Tacite, je vous lis deux citations, cette même année, 12 villes considérables de l'Asie furent renversées par un tremblement de terre qui eut lieu pendant la nuit. Et à un autre endroit, il dit, cette année fut fertile en prodiges, de nombreux tremblements de terre renversèrent des maisons. Et selon Flavius Josèphe, en 67, Jérusalem, déjà menacée par les assaillants romains et édomites, fut frappée par un tremblement de terre. Donc Jésus a bien prophétisé tremblement de terre. Quatrièmement, famine et peste. Pour cela, nous devons quitter Luc et regarder la version du récit quitter Marc et lire les paroles de Jésus. Dans Luc, le même passage parallèle, Jésus dit, dans le verset 11, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Les auteurs du Nouveau Testament nous parlent de famines qui ont frappé l'Empire romain entier pendant la période entre la mort de Jésus et la chute de Jérusalem. Est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, je crois que c'est vers les années 57 à 59, Paul doit aller faire des collectes un peu partout pour les Juifs à Jérusalem. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la famine. D'accord? Et donc, nous lisons, par exemple, ce verset frappant dans le livre des Actes, chapitre 11, versets 27 et 28. En ce temps-là, avant la chute de Jérusalem, hein, le livre des Actes écrit avant que Jérusalem tombe, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Alors, le mot toute la terre, c'est oikoumene. Alors, c'est un mot qui signifie le monde méditerranéen, c'est-à-dire l'Empire romain. D'accord? C'est un mot technique qui était employé par les Grecs de leur temps pour dire la partie du monde où habitent les Grecs et pas les barbares. Mais venu l'Empire romain, les Romains ont employé ce mot pour parler de l'Empire romain. Bien, Tacite fait allusion à cette famine en indiquant qu'à un moment donné, Rome n'avait que 15 jours de nourriture qui lui restait dans la ville. 15 jours, voilà ce qu'il dit. Il dit la disette de grains et la famine qu'elle causa furent aussi regardées comme des présages funestes. On ne se borna pas à de secrets murmures. Pendant que Claude, l'empereur Claude, rendait la justice, le peuple l'environna tout à coup avec des cris tumultueux. Alors je crois que Claude est en train de mener un procès de justice. Et la multitude est tellement fâchée avec lui parce qu'il n'y a pas rien à manger que donc ils entourent l'empereur. Et Tacite nous dit, il fut poussé jusqu'à l'extrémité du forum et on l'y pressa vivement lorsque l'aide d'un gros de soldats, il perça avec l'aide des soldats, il perça cette multitude irritée. C'est un fait certain qu'il ne restait dans Rome que pour 15 jours de vivre. Et il fallut la bonté signalée des dieux et un hiver sans orage pour la préserver des derniers malheurs. Suétone aussi mentionne la famine à Rome pendant le règne de Néron. Maintenant, nous avons une plus loin. Je parlais de Claude et plus loin dans le règne de Néron, c'est-à-dire les années 54 à 68, Suétone nous dit ceci. La cherté des grains rendit encore plus odieux les athlètes que Néron entretenait. Parce qu'eux, ils ont tout ce qu'il faut pour manger. Au milieu de la famine publique, on annonça qu'un vaisseau d'Alexandrie avait apporté du sable pour les lutteurs de la cour. Alors que le peuple espérait de la nourriture. L'indignation contre Néron fut générale et il n'y eut point d'affront qui n'essuya. Vous savez que donc, quand il y a des famines, il y a presque tout de suite des pestes. Quand les gens n'ont pas de quoi manger, la famine et la peste s'accompagnent. Et Suétone écrit au sujet d'une peste à Rome pendant le règne de Néron, qui était tellement sévère, il dit ceci, je cite, « En un seul automne, la peste s'inscrivit 30 000 convois sur les registres funèbres. » 30 000 personnes mortes par une peste à Rome. Joseph parle de pestes qui font rage à Babylone en l'année 40 et Tacite parle de pestes en Italie dans l'année 66. Donc nous voyons que Jésus a bien prédit des famines et des pestes pendant cette période. Cinquième point, la persécution et le martyre des chrétiens persévérants. Regardez votre feuille, nous lisons en Marc 13, 9 à 13. Jésus dit « Ces chrétiens, prenez garde à vous-mêmes, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Et il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas, ainsi de suite. » Dans le livre des Actes chapitre 8, nous apprenons qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et cette persécution n'est pas simplement venue des responsables religieux, c'est venue des gouverneurs, comme Jésus l'avait bien prédit. Nous lisons en acte 12. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques. Nous devons aussi nous rappeler que Paul est amené à apparaître devant Festus, Félix, Agrippa, des gouverneurs et des rois. N'est-ce pas exactement comme Jésus l'avait dit? Mais la persécution dans cette période de 40 ans ne se trouve pas simplement en Judée. Ça se répand dans tout l'Empire romain d'une manière assez incroyable. Écoutez ceci. Vous savez que en l'année 72, Néron épouse une femme qui est sympathisante des Juifs. Et quelques mois après, Pierre est à Rome. Nous le savons parce qu'il écrit sa première épître et il dit d'une manière voilée où il est. Parce qu'il dit « L'élu qui est à Babylone vous salue ». L'élu, c'est l'Église qui est à Babylone, donc c'est Rome. Et c'est aussi Rome dans le livre d'Apocalypse. Voilà. Et dans cette épître, voilà ce qu'il dit. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange » qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il dit en ce moment, il y a une fournaise de persécution. Je parle de Rome et je parle de l'Empire. Alors, nous allons nous référer à quelques faits que vous connaissez peut-être. Nous arrivons à l'année 64, où la ville de Rome, qu'est-ce qui arrive en 64 dans la ville de Rome ? Un immense incendie, très renommé. Cet incendie dure 7 nuits et 6 jours, sans cesse réactivé par le vent. Et les auteurs de l'époque nous disent que des 14 arrondissements de la ville de Rome, 4 seulement subsistèrent. Vous pouvez imaginer des temples, des monuments, des collections de l'art grec rassemblées depuis des siècles furent réduits en cendres et en poussière, et des milliers d'hommes périrent dans la ville de Rome. Probablement, l'incendie avait un début accidentel. Tacite dit que Néron l'a commencé, parce que Néron est un fou furieux. En tout cas, le peuple blâme Néron. Et Néron doit maintenant, pour sauver sa vie, blâmer quelqu'un. Et qui est-ce qu'il va blâmer? Il accuse les chrétiens. Et il déclenche une persécution incroyable dans l'Empire romain quelques années avant la chute de Jérusalem. Voilà ce que dit Tacite. Rappelez-vous, il n'est pas chrétien et il n'aime pas les chrétiens. Vous allez le voir. Mais voilà ce qu'il dit. « Mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ses rumeurs, il offrit d'autres coupables. Et il fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés. » Il parle des chrétiens. « Une classe d'hommes détestés, rappelez-vous que Jésus dit « Vous serez haïs de tous. » « Une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétien. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. » On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et sur leur révélation une infinité d'autres. Une persécution très large de chrétiens. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns couverts de peaux de bêtes, on prenait des peaux de bêtes et on les cousait autour des chrétiens. Les uns couverts de peaux de bêtes périssaient dévorés par des chiens, qui étaient attirés par la senteur, par l'odeur des bêtes sur les. D'autres mouraient sur des croix, crucifiés, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle et donnait en même temps des jeux au cirque. Donc, c'était des chrétiens qui servaient de flambeaux par leur corps brûlant. Maintenant, peut-être vous pouvez comprendre une phrase dans l'épître aux Hébreux que nous avons lue tout à l'heure dans le culte. Je répète que l'auteur, cette épître est écrite en 67 probablement, vers 67, et il dit que les chrétiens, je cite, étaient exposés en spectacle par les opprobres et tribulations. Hébreux 10, verset 32. Exposés en spectacle. Il est en train de parler de ce phénomène que Tacite nous racontait. Clément de Rome, qui est quelque part entre 70 et 95, dit qu'une vaste multitude des élus souffrit d'un grand nombre d'indignités et de tortures. Et Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vais vous donner juste un petit détail parce que nous sommes presque à la fin. Quand Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, l'article manque avant le mot fin. Il est présent dans les versets 6 et 14 quand Jésus parle de la fin de la période juive, mais ici, il dit... Il est en train d'utiliser une phrase courante qui voulait dire « jusqu'au bout ». Celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Ok, sixièmement, l'apostasie d'un grand nombre. Pour cela, nous devons lire la version de Matthieu, chapitre 24, les versets 10 et 11. « Alors, dit Jésus, aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Jésus annonce qu'avant la chute de Jérusalem, il va y avoir une apostasie parmi les gens intégrés dans l'église chrétienne. Et un peu plus tard, dans l'année 47, Paul se rend une dernière fois à Éphèse. Il rencontre les anciens, les conducteurs de l'église, et voilà ce qu'il dit. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que de milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples derrière eux. » Mais comment est-ce qu'il savait ça? Il est possible qu'il eut une révélation particulière, mais je crois qu'au moins en partie, il est en train de... Il croit tout simplement la prophétie de Jésus. Jésus a dit qu'il va y avoir une grande apostasie avant la chute de Jérusalem. Jean écrit vers l'année 65 ceci. C'est l'heure dernière du régime de l'Ancien Testament. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous. Une apostasie. Et l'Épître aux Hébreux dit aussi, il parle de ceux qui avaient été une fois éclairés, ont goûté le don céleste, ont eu part le Saint-Esprit, et puis sont tombés. Parce qu'il parle des gens qui avaient vu un grand départ. La lettre de Jude, de Timothée, dans beaucoup d'endroits dans le Nouveau Testament, nous apprenons qu'il y a eu... justement un départ, une apostasie dans le premier siècle. Septièmement, l'évangile annoncé au monde entier. Mais vous allez me dire, pasteur, est-ce que ça s'est passé avant la chute de Jérusalem? Est-ce qu'on n'est pas dans la fin du monde? Pas selon le Nouveau Testament. Nous allons lire Marc chapitre 13, verset 9. Jésus dit, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues, etc. Et verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et Matthieu 24 dit, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et je crois qu'il veut dire la fin du temple. Je vais donc essayer de vous expliquer. Quand Jésus vous dit que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, il emploie encore ce mot oikoumené. Il parle de l'empire humain, de l'empire romain. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi c'est logique que l'évangile doit être prêché dans tout l'empire avant que Israël puisse être jugé. C'est impossible qu'Israël soit jugé si l'évangile ne part pas dans tout l'empire. Voilà la raison. Vous savez que la Bible nous dit que l'évangile devait d'abord être prêché aux Juifs. L'évangile, premièrement aux Juifs et puis aux Grecs. D'accord ? Maintenant, où sont les Juifs dans le premier siècle ? La moitié sont en Israël, en Palestine, mais la moitié sont éparpillés dans l'Empire romain. Pour juger Israël et dire que ce peuple ne peut plus être mon peuple parce qu'ils ont rejeté le Messie, il faut que les Juifs entendent l'Évangile. Tu ne peux pas rejeter Israël lorsque la moitié d'Israël n'a même pas entendu le message du Christ. Donc il faut que l'Évangile aille dans tout l'Empire pour que tous les Juifs aient leur occasion, et quand tout le peuple juif en Palestine et en dehors de Palestine rejette en bloc le Messie, le jugement tombera. C'est pour cela. Donc, je vais juste vous lire un verset pour vous montrer pourquoi je dis ça. Vous savez que dans les écrits de Paul, lorsqu'il parle du monde et de l'évangile qui va dans le monde, 41 fois, il utilise le mot « cosmos » pour « monde ». Une seule fois dans ses écrits, il utilise le mot « oikoumene ». Et c'est dans ce verset où il parle dans Romains 10 aux Juifs et les reproche de ne pas avoir cru. Ok ? 10, 17. Vous savez que Romains 9 à 11, il est question des Juifs, de la nation d'Israël. Nous sommes au milieu de ça. Et Paul dit, « Alors la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu ?» Citation de l'Ancien Testament, il parle des Juifs. « Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, c'est tout l'oïkoméné, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. » Donc, quand Paul veut reprocher les Juifs de ne pas croire, il dit, vous n'avez pas d'excuse. L'Évangile est allé dans toute l'oïkoumené, tout l'Empire romain. Et voilà la logique du Seigneur Jésus lorsqu'il dit, avant que Israël puisse être enlevé comme peuple de Dieu, il faut que tout ce peuple entende l'Évangile. Je vais juste confirmer par un autre verset et puis on va s'attaquer au dernier point. Colossiens 1:6, écoutez bien, c'est la Bible qui parle, ce n'est pas moi. C'est écrit avant la chute de Jérusalem. Il est au milieu de vous, l'évangile est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Ou bien, Paul en Romains 1:8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ou bien, Colossiens 1:23, si, du moins, vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Peut-être moi et vous, on ne comprend pas comment on puisse dire ça. C'est une phrase idiomatique qui ne veut pas dire tous les individus sans exception, mais c'est une manière de dire que l'évangile est allé partout, avant la chute de Jérusalem. Je ne peux pas aller plus loin pour vous expliquer tout cela, mais nous savons que les apôtres et leurs émissaires sont allés, avant la chute de Jérusalem, en Russie, aux Indes, en Afrique du Nord, en Grande-Bretagne, pour ne pas parler de toute l'Asie et l'Europe. D'accord ? Ça, nous le savons. Donc, Jésus a prédit que le royaume, l'Empire romain, allait entendre l'Évangile, c'est un signe avant que le temple ne soit détruit. Nous arrivons au dernier signe, et si vous pouvez patienter pour que je vous explique quand même très rapidement ce point, nous arrivons au verset 14 de Marc 13. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Il faut bien lire la version de Luc parce que Luc, parlant des gens qui ne sont pas juifs, doit expliquer cette phrase bizarre, abomination de désolation. Ça vient d'où cette phrase? Ça vient de Daniel. Mais les non-juifs ne comprennent rien là-dedans. Donc lui, il traduit, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Ok? L'abomination n'est pas utilisée par Luc. Il remplace ça avec les armées de Rome. Abomination dans les Écritures est un mot qui parle d'idolâtrie. Une abomination, c'est une idole. C'est un mot qui est chicu, qui est employé pour parler d'actes blasphématoires ou d'idolâtrie. Désolation, c'est quoi? C'est la destruction. Ok? Donc, lorsque Daniel parle, et Jésus parle de l'abomination de désolation, il parle d'une destruction qui est, d'une manière ou d'une autre, liée à quelque chose d'idolâtre. Il y a des chrétiens évangéliques, beaucoup en France, qui pensent que cette abomination de désolation, c'est dans le futur, c'est vers la fin du monde. Et ils disent que c'est un moment où l'Antéchrist va aller lui-même ou mettre une statue de lui dans un temple reconstruit à Jérusalem. D'accord? Et il y a toute une théorie bâtie au sujet de cela. Mais Jésus ne parle pas de cela du tout dans ce passage. Je vous donne trois raisons. Première raison, Jésus a dit toutes ces choses se passeront dans cette génération, dans sa génération, de ceux qui écoutaient. Deuxièmement, la prophétie dit que c'est une abomination de désolation, c'est-à-dire c'est une abomination qui va détruire le temple. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre une idole dans un temple si l'abomination détruit le temple? D'accord? Troisièmement, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de désolation dans le lieu où il doit être. Maintenant, écoutez bien. Les évangéliques qui pensent que ça parle de la fin du monde, ils disent que l'abomination de désolation est une idole que quelqu'un va mettre dans le sein des saints d'un temple reconstruit. Mais Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de désolation là où il ne doit pas être, les juifs ne peuvent pas regarder dans le sein des saints. Ce n'est pas permis. Mais ils peuvent voir les armées de Jérusalem autour, les armées de Rome autour de la ville de Jérusalem. Et c'est ce que Luc dit. Quand vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus emprunte ce mot de Daniel? Vous devez savoir que les armées romaines, à l'époque, étaient notoires pour des images idolâtres affixées sur leurs étendards. D'accord? Donc, ils portaient des étendards avec eux en campagne. Et ils les mettaient dans la terre la nuit et ils adoraient, ils offraient des sacrifices dans chaque lieu où ils campaient. Et Tertullien, un chrétien primitif, a dit que le camp où étaient les soldats romains était un champ de sacrifice et d'adoration idolâtre. Flavius Joseph nous relate qu'à un moment donné, avant la chute de Jérusalem, ça c'est maintenant, probablement vers les années 40-50, Pilate a voulu faire venir les soldats romains avec leurs étendards et avec ses faux dieux sur les étendards dans la ville de Jérusalem. Il les fait venir et le peuple juif a tellement réagi qu'il était obligé de leur dire « Vous mettez vos étendards à Césarée, ça ne va pas aller, vous ne pouvez pas les garder ici ». D'accord? Donc, il y avait une sensibilité très, très haute de la part des gens dans la ville de Jérusalem qui disaient, les soldats romains sont là, mais ils ne viennent pas avec leur étendard. Ok? On ne vient pas avec des symboles, des idoles dans cette ville. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand vous allez voir la ville de Jérusalem entourée de symboles idolâtres, quand vous allez voir ces idoles venir là où elles ne devraient pas être, où vous avez déjà dit non, c'est la ville sainte, vous saurez que sa destruction est proche. Voilà le dernier signe. Et donc Jésus est en train de leur donner le signe de fuir dans les montagnes de Judée. Comment est-ce qu'ils ont pu fuir si on était entouré par des armées? Flavius Joseph nous donne un détail curieux. Il dit que les armées étaient prêtes de donner siège à la ville, et à un moment donné, bizarrement, il dit qu'il ne sait pas pourquoi, ils se sont retirés un moment. Ils se sont retirés, et à ce moment-là, Eusèbe, l'historien chrétien, nous dit que les chrétiens ont pris ça comme leur moment, et ils ont fui dans les montagnes de la Judée. Les Romains sont venus peu après et ont saccagé complètement la ville de Jérusalem. Bien, vous avez été extrêmement patient. J'ai tenté de faire l'impossible, mais j'espère que vous voyez que Jésus parle dans ce texte de la fin du temple, de la fin de l'Ancien Testament et non pas de la fin du monde. Nous pouvons nous réjouir que nous avons un Dieu qui nous aime tellement, qui nous avertit et qui nous délivre. Parce qu'il dit, pas un cheveu de vos têtes ne va périr. Et Uzed nous dit que pas un seul chrétien n'a péri par le siège de Rome sur Jérusalem, qui a fait un génocide incroyable dans cette ville. Dieu protège ton peuple, il les guide, il les entoure, et c'est assez incroyable de savoir que des croyants comme vous et moi, on peut traverser une génération où il y a guerre et rumeurs de guerre, famine, peste, faux prophètes et tout le reste. Et à la fin, on est complètement délivré de tout cela. Dieu est grand, n'est-ce pas? Il est bon. Nous pouvons penser à nous. Si la fin du monde nous tombe dessus, ce récit est une leçon pour nous. Nous allons tenir. Parce que Dieu est tellement grand et tellement fidèle. Nous allons chanter pour nous tourner vers le Seigneur et pour nous préparer pour la scène. Je vous invite à trouver le numéro 69 dans le recueil, Ma richesse, ma gloire.
Ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel.
Paul dit qu'à moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une direction dans le passé, dans le repas du Seigneur. Nous nous rappelons de la mort de Jésus, n'est-ce pas? Mais il y a un regard vers l'avenir, jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que dans la scène, le Seigneur lui-même nous convoque à sa table. Le baptême est un sacrement qui se passe une seule fois, qui marque notre initiation, notre conversion. Qui nous dit ce qui s'est passé en nous au moment de la conversion. Mais la scène est un sacrement qui nous parle de notre continuation, notre route que nous faisons avec Jésus. Et nous le faisons encore et encore et encore, parce que le Seigneur, à maintes reprises pendant ta vie chrétienne, te dit: viens, je te nourris, je te fortifie. Je communie avec toi, je t'accompagne jusqu'à ce que je vienne. Et donc il y a ce regard vers l'avant. La foi chrétienne n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé, c'est en quelqu'un qui est le vivant et qui vit en nous. Et le repas nous parle du fait que celui qui vit en nous, nous aime. Paul a dit: la vie que je vis maintenant, je vis par la foi en Christ Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je vous invite donc à la table, si vous êtes chrétien, vous vous êtes converti, vous avez Christ comme votre sauveur, vous vous êtes fait baptiser pour entrer dans l'Église de manière visible. C'est le Christ lui-même qui vous invite, qui vous appelle de manger avec foi. Rappelez-vous que les réformateurs ont dit que le sacrement est une parole visuelle. C'est l'évangile. Vous avez le Christ qui meurt, vous avez le sang et le corps séparés. Donc une mort violente. Et maintenant, cela vous est donné. Cette mort de Christ, Christ vous dit, c'est pour vous. C'est pour vous pardonner. Vous êtes de nouveau pardonné de tous vos péchés aujourd'hui. Le Christ vous lave de son sang et vous fortifie de son corps. Si vous allez prendre, vous pouvez le faire en toute liberté, sinon laissez passer l'assiette.
Réjouissons-nous, frères et sœurs, le corps de Christ a été donné pour nous. Recevez donc la bénédiction. Et maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui, irréprochable et dans l'allégresse. À notre seul Seigneur Jésus-Christ soit gloire, maintenant et à tout jamais. Amen. Bon dimanche à tous. Merci de votre patience aujourd'hui. Désolé d'être si long avec le sermon.
On a survécu.